C'est pas moi qui le pars, par exemple. C'est pas moi qui le pars. Ouais. Moi, je peux pas taper des mains, là. On va prendre place. Viens, Mégane. Arnaud, il est où? Arnaud est avec maman? Tu peux t'asseoir ici, ma grande fille. OK. On va faire un chant pour enfants. Est-ce que tu viens t'asseoir avec nous? Il y a Arnaud qui n'est pas là. Il est où, Arnaud? Il est allé à la toilette? OK, on va attendre. On va pas l'attendre. On va débuter. Donc, c'est moi qui vais faire les chants pour enfants ce matin. J'ai besoin de deux grandes filles pour venir tenir le carton. Allez. Oui, ici. Comme ça, on tient ça comme il faut. Est-ce que vous le connaissez bien? Ça dit toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Fait que là, quand on dit toc, 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 c'est. Je veux vous entendre. Donc, il y a deux personnes. On va chanter, puis après ça, on le regardera ensemble. Donc, on va commencer par la chanter. C'est moi qui débute ou c'est une autre voix qui. OK. Donc, je vais faire le toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte, toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer, fais le mal. Réclame une place, non, non, non. Mon cœur lui est fermé. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte, toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus, il veut toute la place. Oui, 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 Seigneur, tu peux entrer. Merci, merci, vous avez bien fait ça. Donc, il y a deux, vous pouvez aller vous asseoir. Il y a deux choses qu'on a vues qui frappaient à la porte. C'était quoi la première chose, Mégane? Le mal. Qu'est-ce qu'on dit quand le mal frappe à notre porte? On dit non, non, non. Le cœur est fermé. On ne laisse pas le mal entrer dans notre cœur. C'était quoi la deuxième? Est-ce que tu veux aider, Mégane? C'est Jésus. Puis quand c'est Jésus qui frappe à notre porte, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit oui, oui, oui. Tu peux entrer dans mon cœur. Tu peux prendre toute la place. Pas juste une petite place, toute la place. Alors on va prier avant la deuxième partie. Arnaud, on a chanté le chant sans toi. Est-ce que tu nous pardonnes? OK. On va chanter. Notre Dieu, on te remercie pour le temps qu'on a passé ce matin. Merci aussi parce qu'on voit que le Seigneur Jésus frappe à la porte de notre cœur, puis il veut entrer, puis il permet que tout le monde ici laisse entrer le Seigneur Jésus, et qu'il permet que tout le monde aussi sache dire non au mal quand il veut rentrer. On te prie de bénir l'école du dimanche, puis de bénir le temps qu'on va avoir en haut également. On prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. On peut descendre en bas pour les amis. À tout à l'heure. Pardon. Alors, je vais peut-être. Habituellement, je tiens la souris de la main droite. Fait que vous allez peut-être me trouver maladroit un petit peu. Que normalement, ça devrait être correct, mais vous allez peut-être me trouver un petit peu maladroit. OK. Parfait. Alors, salutations à tout le monde que je n'ai pas salué. Ça me fait plaisir d'être là. On est content, Jeanne et moi et les enfants, de vous rendre visite. Ça nous fait toujours plaisir de venir vous voir. Merci pour ceux qui ont prié pour mon poignet qui est guéri tranquillement. J'ai été opéré, je me suis blessé, je suis trop vieux, j'imagine, puis je me suis blessé en jouant au hockey. Puis là, j'ai été opéré vendredi. Donc là, j'ai une plaque avec des vis, puis on attend que ça guérisse maintenant. Fait que on va apprendre à. Ça prend, il y a quand même une grosse dose d'humilité à demander de l'aide pour lacer ses lacets ou pour zipper un zipper. Donc, il y a une grande dose d'humilité à travers ça. Mais Seigneur est souverain, il permet que ça arrive, donc on doit avoir la bonne attitude. Donc, ce matin, à l'Assemblée de Sainte-Foy, la semaine passée, c'était Thomas qui était là. Puis, je ne sais pas, il a parlé dans le Philippien, je ne sais pas quel endroit qu'il parlait. Est-ce que c'était avant ou après le passage qu'on fait? OK. Donc, parce que Thomas, ce matin, il fait la suite de ce texte-là. Je ne sais pas si vous aviez eu la suite ou vous aviez eu le texte devant. Donc, on achève Philippiens à l'Assemblée de Sainte-Foy. Ce matin, je vous propose un texte très court, deux versets dans Philippiens au chapitre 4, les versets 8 et 9. Étant donné que c'est un texte qui est très court, on va prendre le temps de le lire deux fois. On va prendre. T'arrives pas à afficher? OK, t'as arrêté de. Ce ne sera pas long. De changer mon partage. Donc, on redébute. Donnez-moi un petit instant. Alors, on reprend. Donc, comme je disais, c'est un texte très court, donc on pourra le lire deux fois. Philippiens 4, les versets 8 et 9. Ça nous dit: Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Je vais lire à nouveau. On va prendre le temps de lire. C'est un court texte. Profitons-en. C'est toujours le meilleur moment quand on fait la lecture de la parole. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, c'est un texte qui, on arrive on arrive à la fin, chapitre 4, c'est le dernier chapitre de Philippiens. C'est une des dernières exhortations qu'on voit après ça. C'est principalement des remerciements, une salutation. Donc, on arrive à la toute fin de la lettre. Avant de se lancer dans le texte, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez chez vous des problèmes de loup? Est-ce qu'il y en a ici à la main levée qui ont des problèmes de loup chez eux, dans leur maison? Est-ce qu'il y en a que c'est une réalité? Qui ici a des problèmes de loup? Personne? Nous, on habite à Sainte-Foy. Ceux qui sont venus chez nous, c'est sur le plateau, c'est un quartier résidentiel et on a des problèmes de loup. On a beaucoup de problèmes de loup chez nous. Vous demanderez à mes enfants, à Mégane et Arnaud, si vous leur demandez nos problèmes de loup, ils vont leur en parler. En fait, mes enfants, quand ils sont à l'étage supérieur, c'est un plain-pied qu'on a chez nous. Donc, on a un étage principal, puis on a un sous-sol. Quand ils sont à l'étage principal, tout va bien. Mais quand il vient le moment de descendre au sous-sol, on a un problème. C'est qu'on a des. Les enfants, c'est très difficile de descendre dans le sous-sol. On a un enjeu de loup à la maison. Puis les enfants sont très craintifs de descendre parce que les loups. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu, le loup, mais il y a un loup qui est là, puis les enfants ont peur de descendre. Puis le seul moyen d'être certain qu'il n'y a pas de danger pour les enfants de descendre, c'est si papa est là, ou maman aussi. Si papa ou maman sont là, les loups ont peur des parents. Puis quand les parents descendent avec les enfants, les loups se sauvent et on peut descendre en toute sécurité. Donc, j'ai jamais vu les loups. Mais on a des loups au sous-sol, puis c'est un enjeu pour les enfants. Ceux qui ont déjà eu des enfants vont Ça va probablement me faire sourire ce que je vous raconte. Puis en fait, quand on y parle, ces enfants, pourquoi? Tu sais, mes enfants, ils n'ont jamais vraiment vu de loup. Là. On est allé mais là, au Miller Zoo, puis il y en a, puis on les voit de loin, puis ils sont pas vraiment dangereux. Mais pourtant, ils ont peur des loups. Ils en ont jamais vu, mais pourtant, ils ont peur. Ça vient de où, cette peur-là des loups? Vous pensez? D'où est-ce que ça vient? En fait, ça vient de. Tu sais, on grandit, on a des histoires. On connaissait l'histoire des trois petits cochons, l'histoire du petit chaperon rouge. Il y a toujours un loup, puis il est toujours méchant. Donc, ils ont ces histoires-là qui nourrissent un peu leurs pensées, qui ont déjà entendu que le concept qu'un loup est méchant. Puis, Mégane, elle parle à Arnaud, parce qu'Arnaud, au début, il était très courageux. Puis là, il est un peu moins courageux parce que Mégane a rappelé souvent cette vérité qu'il y a un loup dans le sous-sol. Fait qu'Arnaud, il a fini par y croire aussi. Donc, ça l'a influencé leur pensée, ça l'a influencé leur façon de voir les choses. Puis dernièrement, là, je vois une grande introduction. Dernièrement, Jeanne, elle a acheté un livre usagé qui s'appelle La chèvre de M. Séguin. Qui connaît l'histoire de la chèvre de M. Séguin ici? Vaguement, connaît un peu. C'est quoi l'histoire là? C'est quoi, si je vous demande de résumer l'histoire de la chèvre de M. Séguin, c'est quoi l'histoire? Comment elle s'appelle la chèvre? Elle s'appelle Blanquette. La chèvre, elle s'appelle Blanquette, puis c'est une chèvre qui est malheureuse chez M. Séguin. M. Séguin prend soin d'elle, elle a un champ où est-ce qu'elle peut rester, mais malheureuse, elle aimerait ça aller à la montagne, elle aimerait ça aller loin, puis pour pouvoir vivre sa vie d'une certaine façon. Monsieur Séguin lui dit, tu peux pas aller à la montagne parce que à la montagne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un loup. Il n'y a pas des loups, il y a un loup. Puis le loup, si tu vas à la montagne, il va te trouver, puis il va te manger. Mais la chèvre de Monsieur Séguin, Blanquette, peut rien savoir, puis à un moment donné, elle a réussi à se sauver, puis à pouvoir vivre une journée de rêve à la montagne. Puis elle est contente jusqu'à temps que le soir tombe et que à l'entendre le cri du loup. Puis, je lisais cette histoire-là aux enfants. Je vais vous lire l'enfant. Ça fait quelques semaines que je lisais cette histoire-là. Puis, je vais vous lire où est-ce que j'étais rendu dans l'histoire. Blanquette, donc, le soir arrive. Blanquette réalise qu'elle est à la montagne seule puis que le loup s'en vient. Blanquette eut envie de rentrer. La trombe se tut. Donc, M. Séguin essayait de la rappeler. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre deux courtes oreilles dressées en pointe et deux yeux luisants dans l'obscurité. C'était le loup. Gigantesque, immobile, assis sur ses pattes arrière, il était là, regardant la petite chèvre blanche. Comment que vous sentez? Et puis, j'ai lu ça, puis là. Mettez-vous à ma place, j'entends Arnaud. Hein? Arnaud qui est pas. Puis qui connaît l'histoire, la fin de l'histoire, la chèvre? Qu'est-ce qui arrive à la fin? Ça finit pas bien pour la chèvre, elle se fait manger. Donc, les enfants, ils n'ont pas entendu la fin de l'histoire. Je me suis dit, clairement, si ils écoutent ça, puis je rajoute ça aux enfants, ça va faire en sorte qu'ils vont avoir moins envie de descendre au sous-sol. C'est certain. C'est certain que si je nourris leur pensée avec une histoire comme ça, fait que j'ai dit, j'ai fermé le lit, puis finalement, la chèvre a réussi à se sauver. Je n'ai pas raconté la fin de l'histoire pour les préserver d'une certaine façon, préserver leur pensée. Parce que mon but, c'est de rajouter des choses à leur pensée qui sont positives, qui vont faire en sorte qu'ils vont se rendre. On lit des histoires, des livres qui s'appellent Petit loup, qui est un petit loup qui est 3 ans, qui va à la maternelle. Inoffensif. Un gentil petit loup. Ça, je lis ces histoires-là parce que je me dis, si je leur lis ça, ça va bien nourrir leurs pensées, puis ça va faire en sorte qu'ils vont finir par être capables d'aller tout seuls au sous-sol. Donc, vous comprenez l'idée. Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire-là, c'est que le texte me faisait penser à ça. Quand je préparais mon message, ça me faisait penser à cette idée-là d'avoir qu'est-ce qui nourrit nos pensées, qui nous permet de. Parce que mon titre, c'est des clés pour persévérer ou des clés pour avancer. Ici, on est à la fin de la lettre, comme j'ai mentionné, que Paul a écrit aux Philippiens, puis il mentionne au reste, frère, donc Paul s'adresse à des chrétiens. Quand il mentionne au reste, il arrive, ça veut dire qu'il arrive un peu à sa conclusion, c'est un résumé. Il veut résumer quelque chose dans le but d'encourager. Donc, il a annoncé beaucoup de choses dans son texte, puis là, il veut résumer un point important. C'est ce qu'il veut faire. Puis, il leur dit pas, à la toute fin, il leur dit pas, ah, merci pour le don que vous m'avez fait, puis bonne chance. Arrangez-vous. C'est pas ça. Évidemment, il va leur donner des consignes, des encouragements pour les aider à persévérer dans leur marche chrétienne, à continuer d'avancer, à continuer à vivre une vie chrétienne qui est victorieuse. Puis, c'est ce qu'on, le texte qu'on regarde, c'est dans cette optique-là, comment qu'on peut comment que ces choses-là, le texte qu'on regarde, peut nous aider à persévérer, à avancer dans notre vie chrétienne. Donc, on va voir, j'ai utilisé le mot persévérer parce que mes divisions sont en P. Donc, persévérer en pensée, persévérer en pratique, puis persévérer grâce à une présence. Donc, on va voir le texte sous ces points-là pour voir évidemment des applications pour nous en 2025. Ça vous va? Longue introduction, mais c'est pour nous amener dans ce texte-là. Avant d'aller plus loin, prions pour remettre le temps entre les mains du Seigneur à nouveau. Notre Dieu, merci pour ce texte que tu places devant nous. Merci qu'on sait que ta parole est précieuse, utile pour nous faire grandir, nous instruire. Puis notre prière ce matin, c'est que tu ouvres le cœur de chacun d'entre nous, permets que le temps dans ta parole soit un temps béni, précieux, permets qu'on puisse grandir, puis qu'on puisse apprendre, puis ça puisse avoir un impact sur chacune de nos vies. On prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, il y a, premier point, persévérer en pensée. Il y a plusieurs années, il y a un homme qui a fait cette déclaration très connue qui est Cogito ergo sum. Ça vous dit quelque chose? Non? Je suis un peu déçu. Je vais vous mettre dans notre langue à chacun d'entre nous. Je pense donc que je suis. Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà entendu ça? André, qui a dit ça? Si je te donne l'image de la personne, tu la reconnais? Hein? Qui peut l'aider? Qui sait qui a dit ça? Hein? C'est René Descartes qui a dit ça. C'était dans un contexte de réflexion mathématique qui a mentionné ça, mais je pense donc dessus, il y a quand même une idée que tous ceux qui pensent, il y a une idée d'être présent d'une réalité. Donc, les gens qui sont en vie vont penser. Ça veut dire que chacun d'entre vous qui est ici ce matin, que vous m'écoutiez ou que vous m'écoutez pas du tout, vous êtes en train de penser. Donc, on a tout ce point-là en commun. On est tous en train de penser ce matin d'une façon ou d'une autre. Soit vous pensez aux paroles que je dis ou vous pensez à ce que vous allez faire après-midi, mais vous êtes tous en train de penser. Blaise Pascal a mentionné, penser fait la grandeur de l'homme. Donc, une des caractéristiques de l'homme, Dieu a créé l'homme à son image. On a cette capacité-là de réfléchir, de penser. On n'a pas juste des instincts naturels qui nous font vivre. On a une capacité d'analyser, de penser. Dieu nous a créés avec ça. Malheureusement, on connaît la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que malheureusement, le péché a fait son entrée dans le monde. Puis, ça l'a affecté notre capacité de penser. Nos pensées ont été altérées à cause du péché. Genèse 6, verset 4, on a mentionné le déluge ce matin dans le temps d'adoration. Notre frère François l'a mentionné. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça veut dire que, évidemment, est-ce que tous les hommes qui étaient sur la terre faisaient uniquement des mauvaises actions? Évidemment, non, mais ça veut dire que les pensées des hommes étaient salies, ternies par le péché. Puis c'est un constat que Dieu a fait au déluge. Puis après le déluge, le cœur de l'homme est resté un cœur pécheur. Qu'est-ce qui peut changer les choses? C'est la nouvelle naissance. C'est quand on est nouveau que Dieu transforme nos cœurs, nous donne un nouvel cœur, une nouvelle pensée, une nouvelle façon de vivre. C'est quoi les choses qu'on doit faire quand on est né de nouveau? On doit avoir des pensées qui sont différentes. Dans Éphésiens 4, verset 7, voici donc ce que je dis, que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Donc, on doit avoir une pensée qui est différente. Les païens, ceux qui ne marchent pas avec Dieu, leur pensée, évidemment, n'est pas les mêmes. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit plus marcher selon la vanité de nos pensées, des pensées païennes, des pensées du monde perdu, mais on doit marcher avec des pensées différentes. Puis, évidemment, vous allez être d'accord avec nous, dans la génération, dans la période où est-ce qu'on vit, il y a tellement de choses qui peuvent influencer nos pensées. Tout influence nos pensées, en fait. On peut penser à la personne qu'on parle, les discussions qu'on va avoir avec les gens, ça va influencer notre façon de penser, notre téléphone, les informations qu'on a, les divertissements qu'on a vont influencer nos pensées, les livres qu'on va lire. Si je vous dis, ben là, évidemment, il neige, mais si je vous dis, hier, je vais dire, il va neiger demain, puis vous n'étiez pas au courant, ça va influencer votre façon de penser, votre façon d'agir. Toutes les choses qu'on dit influencent nos pensées. Toutes les informations qui nous entourent vont nous influencer. Donc, on a à être conscient de cette réalité-là. J'oublie la personne qui l'avait mentionné, avait dit ça. La nourriture qui pénètre l'esprit doit être surveillée aussi attentivement que celle qui pénètre le corps. C'est une réflexion intéressante. Si je suis relativement en bonne forme, là, je suis en bonne santé, je mange relativement, j'ai une épouse qui fait. C'est elle qui cuisine principalement, qui cuisine bien. Donc, je mange bien, puis je fais en sorte que je suis en relativement bonne forme. Mais si je me laisse aller, puis je mange n'importe quoi, puis que ça va paraître. Évidemment, si je mange toujours du fast-food ben, à tous les repas, ça va finir par paraître. Ça va paraître, mon corps, ça va paraître. Vous allez le voir, ça va paraître. Mon médecin va s'en rendre compte. Ça va influencer mon développement de mon corps si je ne mange pas bien. Puis à l'inverse, si je mange bien, ça paraît également. C'est la même chose au niveau des pensées. Si je nourris mes pensées de choses négatives constamment, continuellement, ça va paraître. Les gens autour de moi vont s'en rendre compte, les gens vont le remarquer. Mais au contraire, si je nourris mes pensées positivement, ça va paraître également. Donc, on doit nourrir positivement nos pensées. Puis l'apôtre le sait, l'apôtre Paul le sait, puis il mentionne. Puis qu'est-ce qu'il dit qu'il doit faire? Puis mon but ici n'est pas d'aller de point par point, puis d'essayer de comprendre toutes les choses. Il dit que tout ce qui est, et là, il va lister plusieurs choses. Il va dire vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, vertueux, digne de louange. C'est plusieurs mots qui sont mentionnés. Je pense que le but de l'apôtre, mon but, ce n'est pas nécessairement de développer détail en détail chacun des mots. Le but de l'apôtre, c'est d'en mettre énormément pour qu'on comprenne le caractère important de bien nourrir ses pensées. Je pense que c'est ça le but de l'apôtre principalement quand il écrit ça. Rapidement, juste des pensées pour chacune des mots ou une petite définition chacun des mots. Le mot vrai, on a une idée d'authentique, tout ce qui est authentique, ce qui est réel, le mot honorable, noble, honnête, le mot juste, conforme, ce qui est juste, qui est conforme aux lois divines, le mot pur, saint, sans tache, étranger à l'immoralité. Le mot aimable, il y a l'idée d'être admirable, agréable, aussi une source de paix pacifique. Il y a cette idée-là dans le mot, ce qui mérite l'approbation, ce qui est positif, ce qui est constructif, ce qui est vertueux. On parle d'une excellence morale, ce qui est digne de louange, qu'est-ce qui est digne d'éloge, qu'est-ce qui est digne d'adoration. C'est des mots qui sont forts, puis l'apôtre volontairement utilise des mots qui sont forts. Il dit, ces choses-là doivent être l'objet de nos pensées. La question qu'on doit se poser, c'est où est-ce qu'on trouve, est-ce que dans la vie de tous les jours, on peut trouver ces choses-là? Est-ce que dans vos relations, dans votre travail, est-ce que ces choses-là peuvent être trouvées dans le monde commun? Est-ce qu'on peut trouver ces choses-là? La réponse est non. Je cite ici John MacArthur, il disait, si j'observe le monde, vais-je trouver la vérité? Si j'observe le monde autour de moi, vais-je trouver ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est beau, ce qui mérite l'approbation? Quand j'allume la télévision, est-ce que je vais voir ça? Quand j'irai au cinéma, est-ce que je vais voir ça? Quand je lirai un livre ou un magazine, est-ce que je vais voir? Quand j'aurai une conversation avec des amis, est-ce que je vais vivre ça? La réponse est non. C'est des questions rhétoriques. On n'arrive pas à atteindre ces standards-là, l'idée de pureté, de sainteté, de justice dans nos relations, dans ce que le monde nous propose. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'homme, on l'a vu, à cause de notre cœur pécheur, on n'a pas cette capacité-là en nous-mêmes de trouver ces choses-là. Il y a un seul homme qui répond à ces standards-là, qui est-ce? Le Seigneur Jésus, Dieu, là, que j'ai dit un seul homme, donc c'est le Seigneur Jésus qui était Dieu fait homme. Simplement des idées. Cette description-là, ça décrit le Seigneur Jésus. Si on y pense, ce qui est vrai, le Seigneur Jésus lui-même mentionne, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, le Seigneur Jésus est la vérité, qui est honorable, mais pas honorable, juste et pur. Pierre, dans son discours à la Pentecôte, va mentionner, il parle du Seigneur Jésus comme le saint et le juste. Vous avez crucifié le saint et le juste. Donc, le Seigneur Jésus est saint et juste. Il répond au standard de pureté, de justice. Le Seigneur Jésus est aimable. On a cette idée de paix que je mentionnais dans 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Le Seigneur Jésus est décrit comme le Seigneur de la paix, ce qui est honorable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange. Évidemment, c'est le Seigneur Jésus. On a vu ce matin, on ne s'est pas rendu là nécessairement dans Philippiens 2, le verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, le Seigneur Jésus, lui seul est honorable, lui seul mérite l'approbation, lui seul est vertueux, lui seul est digne de louange. Donc, nos pensées doivent être influencées par le Seigneur Jésus. C'est ce qui doit nous caractériser. Puis où est-ce qu'on entend parler du Seigneur Jésus? Dans la Bible, dans la parole. Il n'y a pas de secret dans ce que je vous dis. Le seul endroit où on peut avoir ces choses-là, c'est dans la parole de Dieu. On voit dans l'évangile de Jean, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Donc, c'est la parole de Dieu qui peut nous donner ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, qui est digne de louange. Je propose un texte dans les psaumes. Psaume 19, des versets 8 à 12. Je suis convaincu que l'apôtre pensait à des textes comme ça quand il proposait quand il a écrit la lettre. Il mentionne la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup de parfums. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Donc, la parole de Dieu, c'est ce qui peut, puis il ne nous apprend pas rien de nouveau, mais c'est ce qui peut bien nourrir nos pensées, c'est ce qui peut bien influencer nos pensées, c'est ce que ça doit, et c'est ce qui doit nourrir nos pensées. Comment j'essaierai de trouver des synonymes? C'est vraiment important de considérer ça. Donc, il faut faire une place aux choses de Dieu, il faut faire une place à la parole de Dieu, pour que ça puisse avoir une influence sur nos pensées. Donc, persévérer en pensée, persévérer non seulement en connaissance, mais persévérer aussi en pratique. Je poursuis la lecture. Je vais relire le verset 9, c'est-à-dire ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Donc, on a cette idée-là ici de mise en pratique. Donc, Paul va décrire trois choses que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Premièrement, ce que vous avez appris. Qu'est-ce que ça l'implique d'apprendre? Non, mais apprendre, ça veut dire qu'on apprend des choses. Ça veut dire qu'il y a une idée académique en arrière de tout ça. Ça veut dire qu'on a une responsabilité d'apprendre par rapport à la parole de Dieu. On a une responsabilité de l'apprendre, de grandir. On a une responsabilité de se l'approprier. Il faut se rappeler que Paul a écrit les principales parties doctrinales de ses lettres aux. Il ne faut pas ça. Il faut Paul n'a pas, pardon, écrit les principales parties doctrinales de ses lettres aux théologiens. Paul, quand il écrivait ses lettres, la lettre qu'on lit, le texte qu'on lit ce matin, Paul n'écrivait pas ça à des théologiens, des choses compliquées. Il écrivait ça à des gens comme vous et moi. Il a écrit aux Romains, aux Éphésiens, ainsi que les grandes sections doctrinales à des gens ordinaires. Est-ce que vous êtes des ordinaires? Je vous regarde, vous avez l'air déjà ordinaire. Moi aussi, d'ailleurs, je n'ai pas un jugement. Dont beaucoup, à part toi, Jean, t'es extraordinaire. Des gens ordinaires, dont beaucoup étaient des esclaves sans instruction. Donc, il y a des idées doctrinales qui sont envoyées à des gens sans instruction qui avaient accepté la foi à Christ afin de les aider à comprendre comment vivre de manière qui plaise à Dieu. Donc, ces gens-là qui avait pas d'instruction, Paul leur enseignait ces choses-là. Donc, nous, on a un avantage sur des gens qui n'avaient aucune instruction. On a certaines instructions. Donc, on a une responsabilité de vouloir apprendre les choses de Dieu, de vouloir les considérer, de vouloir pas simplement en savoir de façon générale, mais avoir une volonté de se plonger dans la parole, puis d'en comprendre, puis de grandir, puis de continuer à apprendre, peu importe l'âge, peu importe ce qu'on est rendu, peu importe nos capacités, on a cette responsabilité-là de le faire. Donc, on a une idée d'apprendre et aussi de recevoir. Dans le mot recevoir, il y a une idée de se l'approprier. C'est pas simplement apprendre quelque chose pour l'oublier par la suite. Moi, j'ai étudié à l'université, puis à l'université, il y avait les périodes d'examen, puis c'est vrai, peu importe dans les domaines, puis on avait plusieurs examens consécutifs, là. Donc, dans l'espace de 1 semaine, 2 semaines, on pouvait faire plusieurs examens, puis ce qu'on disait, c'est on remplissait la cruche. Donc, on apprenait des choses pour être capable de. On apprenait des choses par cœur pour être capable de faire l'examen le lendemain. Puis après ça, on vidait la cruche, puis on apprenait d'autres choses pour être capable de faire l'examen. Puis après ça, 10 jours après, 15 jours après, on n'avait aucune idée de ce qu'on avait appris. On avait tout oublié d'une certaine façon. Le but, c'était juste de passer l'examen. Ça, c'était pas, c'est l'approprier. C'est pas l'idée qu'il n'y a pas là. C'est pas juste dire que vous apprenez quelque chose, puis que si je vous demande dans 3 semaines après, vous n'avez aucune idée. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment d'étudier la parole de Dieu, l'apprendre, puis de vous l'approprier, que ça soit quelque chose qui est réel, qui est concret pour vous, puis que vous le conserviez, pour que vous puissiez l'utiliser. Donc, c'est cette idée-là. Ensuite, Paul, il dit, ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu de moi, Paul a été un exemple. Paul est allé chez les Philippiens, il est allé à Philippe, il a prêché l'Évangile, c'est lui qui a fondé l'Église un peu à Philippe. Puis Paul a été un exemple. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 10, vous êtes témoin, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyait une conduite juste, sainte, juste et irréprochable. C'est comme ça que Paul se comportait. Puis 1 Corinthiens 11, verset 1, Paul encourage, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Paul est un exemple, il encourage les gens à suivre son exemple. Qu'est-ce qui s'est passé d'important quand Paul est allé à Philippe? Quel événement qui s'est passé? Une conversion importante dans Acte 16. Acte 16, Paul à Philippe, il est allé, il a été jeté en prison. C'est la conversion du geôlier en prison. Donc, c'est à Philippe que c'est arrivé. Qu'est-ce que Paul faisait? Paul, ça n'avait pas été une bonne journée, là, cette journée-là. Là. Il se fait jeter, il se fait battre, il se fait juger injustement, il se fait jeter en prison. Puis qu'est-ce qu'il fait rendu à prison? Il chante des cantiques. Il chante des cantiques, il se nourrit les pensées de choses qui sont positives. Il n'est pas en train de se lamenter sur son sort. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour bien nourrir mes pensées? C'est l'exemple qu'il faisait, puis il encourage les gens à faire de même. Lui-même, il est avec Silas, ils sont en prison. Ça devait être une période difficile. Pourtant, ils vont louer Dieu. Ils nourrissent positivement leurs pensées. Donc, c'est comme ça. Il dit, ce que vous avez vu, ce que vous m'avez vu faire, ben pratiquez-le. Mettez-le en pratique. C'est pas simplement dire, ah, c'est une bonne idée pour Paul, mais moi, ça me sert à rien. Non, évidemment, il faut que vous le mettez en pratique. Présentement, on est en train d'apprendre à Mégane à faire ses lacets. Assez comment faire. Mais elle est un petit peu maladroite, évidemment, comme n'importe quel enfant. Puis je comprends, je suis très maladroit. Donc, mais tu sais, des fois, Mégane, elle me dit, ah, maman, ou papa, elle dit, maman, sœur, parce que papa, il est plus 4 ans. Maman, aide-moi à faire mes lacets, mais maman, ce qu'elle lui dit, ben non, mais regarde, tu dois te pratiquer. Tu sais comment faire, tu dois te pratiquer pour devenir bonne. Fait que c'est un peu cette idée-là, ce qu'on sait, ce que la parole de Dieu nous enseigne, ce qu'on découvre dans sa parole, on a cette responsabilité-là de le mettre en pratique. Jacques 1, verset 25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, donc en mettant en pratique, celui-là sera heureux dans son activité. Il y a une promesse d'être heureux si on reçoit la parole, on l'étudie, puis on la met en pratique. On a cette promesse-là, puis c'est ce que l'auteur nous encourage à faire. Alors, on doit prendre des bonnes habitudes. C'est délai. Les habitudes peuvent être vos alliés ou vos ennemis. Les habitudes pieuses vous sont bénéfiques car elles façonnent votre routine quotidienne et vous aident à grandir dans la sainteté. Nous devrions avoir la même habitude chaque dimanche. Comme vous êtes là ce matin, on doit avoir une habitude de venir adorer, venir nourrir nos pensées. Nous devrions prendre l'habitude de lire la parole de Dieu et de prier chaque jour. Ça devrait être normal qu'on prenne ce temps-là pour lire la parole, pour bien nourrir nos pensées, pour prier, pour parler à Dieu. Nous devrions prendre l'habitude d'éviter ce qui pollue notre esprit. Évidemment, on doit mettre des bonnes choses à nos pensées, puis on doit éliminer ce qui peut polluer notre esprit. Donc, on doit avoir des bonnes habitudes. Un troisième point, persévérer grâce à une présence. Et quelques mots, et le Dieu de paix sera avec vous. Le texte nous commence par, en parlant du Dieu de paix dans Philippiens chapitre 4, quelques versets, pardon, quelques versets plus tôt, les versets 6 et 7, ça dit, ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, on a l'idée que la paix de Dieu, si on se confie en Dieu, Dieu va nous envoyer sa paix. Donc, puis Dieu nous, tu sais, puis le Seigneur Jésus, après sa résurrection, première chose qu'il disait à ses disciples, c'est quoi? La paix soit avec vous. Le Seigneur Jésus ne donne pas la paix comme il dit lui-même dans Jean chapitre 15, je crois. Je ne donne pas comme le don. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Donc, le Seigneur Jésus veut nous donner sa paix. On a cette paix de Dieu qui peut nous garder, garder nos cœurs et nos pensées. Puis on a cette idée-là. Puis on a l'idée que Dieu va être avec nous. Le Dieu de paix sera avec nous. Dieu nous assure sa présence. Tu sais, moi, l'exemple que j'avais tout à l'heure avec les enfants, que je descends au sous-sol avec eux. Évidemment, quand je descends avec eux, ils sont pas, ils n'ont aucune crainte, ça va bien. T'sais, évidemment, moi, dans mon cas, mon but, c'est qu'ils descendent sans moi. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu veut nous accompagner dans ce qui peut nous ralentir, ce qui peut nous, nos craintes, nos choses. Il veut rester avec nous. Moïse, avant l'entrée dans ce qu'il pensait, avant de se lancer dans le désert et aller vers la terre promise, il priait Dieu et il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Et Dieu avait dit, je marcherai avec vous. Dieu avait promis sa présence. Dieu avait répondu en promettant sa présence à Moïse, au peuple d'Israël. Puis Dieu, c'est la même chose. Il nous promet sa présence. Si on remplit nos cœurs de sa parole, si on nourrit bien nos pensées, Dieu nous promet sa présence. Il nous promet de nous accompagner. Puis on sait que si on descend au sous-sol, on ne peut pas avoir peur parce que Dieu est là. Il nous promet sa présence. Quelles applications qu'on peut tirer d'un texte comme ça? Les applications, ça va être beaucoup à résumer des choses que j'ai déjà mentionnées. Donc, des applications qu'on peut tirer. Premièrement, pardon, je vais y aller en termes de questions ce matin. On va se poser quelques questions ensemble. Comment je gère mes pensées? Est-ce que vous avez, comment vous gérez vos pensées? Ça va au niveau de vos pensées? Vous les gérez bien? À quoi tu penses, Marc? Ouais, mais c'est des choses qu'on doit se dire. Là, j'ai pas mon téléphone avec moi. La dernière fois, j'avais fait. On a plein de choses qui peuvent influencer nos pensées. Évidemment, il y a des choses qui sont mauvaises puis qu'on le sait. S'il y a des choses qui sont mauvaises puis qu'on le sait, on doit les éliminer. Nous pouvons avoir une vie de pensée pure sans nous débarrasser d'abord de tout ce qui nous souille. Ce serait comme essayer de se purifier en étant allongé dans un trou de boue, une flaque de boue. Donc, ce qui nous souille, on doit évidemment l'éliminer. Ça va de soi. Mais on peut être, dans le monde qu'on est, on peut être constamment, avoir des bonnes choses avec les. Moi, sur mon téléphone, il y a des applications avec des podcasts, des choses qui parlent des choses qui sont bonnes, des fils de nouvelles. On peut constamment nourrir nos pensées, constamment nourrir nos pensées de plein de choses. Puis on peut. Ça peut prendre, même si c'est des bonnes choses, ça peut prendre toute la place, puis ça peut, c'est pas des choses, ça répond pas au standard de ce qui est vrai, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, ça répond pas à ces standards-là. Donc, surveillons-nous, Surveillons comment que je gère mes pensées, comment que je gère l'information qui rentre dans mes pensées. Est-ce que je laisse la place à la parole de Dieu? Est-ce que je lui laisse beaucoup de place ou je lui laisse la place juste une petite période le dimanche matin? Est-ce que je donne toute la place parce que c'est ce que l'auteur, c'est ce que Paul nous encourage à. Qu'est-ce qui devrait être l'objet de nos pensées? C'est la parole de Dieu, c'est ces choses-là. Est-ce que c'est ce que je fais dans ma propre vie? Question qu'on peut se poser. Est-ce que j'apprends encore? Est-ce que j'ai appris encore quelque chose dernièrement par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que j'arrive au point du bas-là? J'en sais assez. À cette heure, j'en ai assez. J'ai plus besoin. Là, je suis correct. Je suis fonctionnel. Ou est-ce que j'ai encore cette volonté de grandir? J'ai encore cette volonté d'apprendre, d'avancer, de progresser. Est-ce que la parole de Dieu continue à m'influencer? Est-ce que je continue à connaître davantage le Seigneur? On peut être profondément influencé par. On ne peut être profondément influencé par ce que l'on ne connaît pas. Donc, si on ne connaît pas la parole de Dieu, si on ne prend pas le temps d'y plonger les regards, ça ne va pas nous influencer. Le seul moyen que ça nous influence, c'est si on veut apprendre, on veut connaître, on veut grandir dans notre connaissance du Seigneur. C'est là comme ça que ça va nous influencer. Sinon, ça ne va pas nous influencer. Autre question, qu'est-ce que je m'en pratique? Là, le message achève, évidemment. Là, on pense à manger, on pense à faire d'autres choses, mais est-ce qu'on sort d'ici en disant, ben, vous avez à avoir votre opinion sur le message, c'est un bon ou c'est un moins bon message, puis on fait notre semaine, puis ça n'a rien changé. Est-ce qu'on a cette. Des fois, on est comme ça, le message est fini, puis ça ne change rien, mais c'est pas ça qu'on. C'est pas ce qu'on devrait avoir comme objectif. Là, la semaine commence. Qu'est-ce que j'ai appris ce matin? Qu'est-ce que je peux mettre en pratique? Qu'est-ce que je peux. Quand vous allez lire votre Bible cette semaine, vous allez la fermer, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que je peux mettre en pratique? Est-ce qu'on a une vie de. Est-ce qu'on met en pratique la parole de Dieu ou on est simplement des auditeurs oublieux? Question qu'on peut se poser, puis c'est important qu'on ait cette réflexion-là. Ensuite, point suivant. Pardon. Question. Quel est mon loup à moi? Les enfants, ils ont un loup, ben, un loup fictif, là, un loup, mais c'est vraiment un loup. C'est ce qui les empêche d'avancer d'une certaine façon, de descendre au sol. Est-ce que dans vos vies, je ne connais pas la réalité de chacun, il y a des choses qui vous bloquent dans votre vie, qui vous empêchent d'avancer, vous empêchent d'avoir une vie positive, une vie victorieuse? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des soucis dans la société, dans la vie qu'on a. Ça arrive des moments qu'on a des inquiétudes, des soucis. Ça peut être, dans mon cas, une blessure. Est-ce que comment je dois réagir, comment mes pensées vont être influencées par ça? Est-ce que c'est un péché, qu'il y a un boulet que vous traînez dans votre vie qui vous empêche d'avancer? Est-ce que c'est. Pardon. Est-ce que c'est le stress, la vie va vite? La vie, on est occupé, on a tellement de choses à faire, on n'a pas le temps d'arrêter. Est-ce que ça nous empêche d'avoir des progrès spirituels? Est-ce que c'est nos enfants? Évidemment, je les aime, mes enfants. Je tiens à ce qu'il y ait une croissance, qu'ils connaissent le Seigneur. Est-ce que ça devient, ça m'empêche de progresser parce que je vois les luttes, les difficultés qui dans la vie de mes enfants, puis ça crée des soucis dans ma vie. Ça peut être n'importe quoi qui nous influence de façon négative, qui nous empêche d'avancer. Ben, c'est quoi la solution à ça? Malheureusement, je n'ai pas de miracle à vous donner. La parole de Dieu, ce qu'elle nous dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut nourrir nos pensées, il faut se nourrir de la parole de Dieu, il faut entretenir cette relation-là avec Dieu, il faut s'appuyer sur la promesse que Dieu est avec nous pour avancer, pour continuer, pour ne pas bloquer par rapport aux défis, aux difficultés qu'on a, mais qu'on puisse vraiment aller de vie de progrès en progrès. Donc, question évidemment que je vous pose, est-ce que moi, je m'appuie sur le Dieu de paix, sachant qu'il est avec moi? Est-ce que vous vous appuyez sur lui ou que vous vous laissez inonder par vos soucis, par vos loups, par vos difficultés? Je termine par ce psaume 139, les versets 23-24. Ça nous dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je vais terminer par une autre prière. Notre Dieu, merci pour ce court texte. C'est quelques versets qui nous en montrent beaucoup. Seigneur, on réalise que nos pensées sont influencées par tellement de choses. Puis Seigneur, on sait que tu veux le mieux pour nous. Puis qu'un texte comme ça qui nous dit de surveiller nos pensées, que tout ce qui est vrai, pur, honorable soit l'objet de nos pensées, Seigneur, c'est on réalise que c'est il y a une raison pourquoi tu nous dis ça. Puis aide-nous à être soucieux de ce qui entre dans nos pensées, ce qui entre dans notre cœur, puis permet qu'on puisse être avoir des filtres, permet qu'on puisse se nourrir de choses qui sont selon ta parole, qui sont positives, qui puissent nous faire grandir dans notre vie spirituelle. Seigneur, merci parce que tu veux non seulement qu'on apprenne des choses, tu veux qu'on les mette en pratique. Donne-nous de partir d'ici avec cette volonté de mettre des choses en pratique dans nos vies. Puis merci parce que tu nous promets ta présence. Seigneur, on n'y arrive pas si tu n'es pas là. Puis merci parce que toi, le Dieu de paix, tu nous promets d'être avec nous. Puis Seigneur, c'est sur cette promesse qu'on veut s'appuyer cette semaine. On prie de nous accompagner, nous diriger dans tout ce qu'on va faire. On prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.